Washington, la voix de l'Amérique. Bienvenue au service francophone vers l'Afrique. Tous les matins, du lundi au vendredi à 5h30, temps universel. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous, bonjour l'Afrique, ravi de vous retrouver sur les ondes de VOA Afrique. Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 19 novembre 2014, au micro Morgane Guiriec et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Morgane, bonjour à tous.
Au sommaire aujourd'hui, retour au calme en Côte d'Ivoire. Les revendications des militaires qui manifestaient hier ont été entendues, c'est du moins ce qu'affirme le gouvernement.
Au Burkina Faso, Michel Kafando a été investi président intérimaire hier. Quels défis attendent maintenant le pays des hommes intègres ?
Il y aura des tentatives de bloquer ou de réduire le mouvement révolutionnaire qui se passe au Burkina Faso. Mais compte tenu de la maturité des jeunes qu'on appelle la génération Sankara, une conscience politique assez élevée, je pense qu'ils sont assez vigilants.
Lutte contre l'Ebola, Barack Obama demande aux législateurs américains d'approuver l'enveloppe de 6,2 milliards de dollars.
En Mauritanie, deux militants anti-esclavagistes ont été écroués pour appartenance à une organisation non reconnue.
Et au Proche-Orient, la tension est extrêmement vive suite à l'attaque d'une synagogue hier à Jérusalem. Sans oublier nos pages sport, on parlera bien sûr de la CAN et la musique. Mais avant, le journal.
En Côte d'Ivoire, les militaires ont été entendus suite à leur manifestation d'hier pour exiger la prise en compte d'arriérés de soldes. La réponse à leur demande est positive, a fait savoir le ministre de l'Intérieur, Ahmed Bakayoko. Hier soir, il a assuré que le président avait donné des instructions au gouvernement pour régler le problème des militaires. Une annonce qui a provoqué des cris de joie et un concert de klaxons à Bouaké, où le mouvement de protestation était parti. Plusieurs militaires démontaient dans la nuit les barrages de fortune, a constaté un journaliste de l'AFP.
Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida pourrait être nommé Premier ministre aujourd'hui. C'est du moins ce qu'affirme l'AFP, qui cite un officier. Le lieutenant-colonel Isaac Zida avait pris le pouvoir peu après la fuite de l'ex-président Blaise Compaoré vers la Côte d'Ivoire. Cette désignation au poste de Premier ministre avait été négociée dans le cadre de l'accord conclu entre l'armée et les civils, indique la même source. Le lieutenant-colonel Isaac Zida doit par ailleurs transmettre symboliquement ses pouvoirs au président de la transition Michel Kafando lors d'une cérémonie vendredi.
Le président Barack Obama a réitéré hier son appel aux législateurs américains pour qu'ils approuvent l'enveloppe de 6,2 milliards de dollars qu'il a demandé pour la lutte contre l'Ebola en Afrique de l'Ouest. Les précisions de Michel Joseph.
Le chef de l'exécutif américain a discuté du dossier hier à la Maison-Blanche avec ses collaborateurs, notamment Ron Klain, coordinateur de la réponse américaine à l'épidémie d'Ebola.
Some of the attention on the crisis has ebbed over the last several weeks, but...
L'épidémie attire moins l'attention maintenant, mais demeure un grand défi, a-t-il dit à des journalistes. Barack Obama a exhorté les membres du Congrès à approuver les 6,2 milliards de dollars nécessaires à la lutte contre l'Ebola avant de prendre leurs vacances de fin d'année. Hier, une sous-commission de la Chambre des représentants s'est penchée sur la situation dans les pays ouest-africains touchés par l'Ebola. À cette occasion, le président d'Africare, Darius Mance, a exprimé son soutien à l'appel du président Obama et exprimé l'espoir que d'autres pays du G20 contribuent aux efforts contre l'épidémie.
Et toujours concernant l'épidémie d'Ebola, le président sierra-léonais Ernest Bai Koroma a sanctionné trois membres de sa famille, dont son oncle, pour violation des règles de lutte contre le virus. C'est ce que dit l'AFP, qui mentionne des sources officielles. Il aurait notamment manqué de signaler des enterrements clandestins de victimes d'Ebola.
En Mauritanie, deux militants anti-esclavagistes ont été inculpés et écroués à Nouakchott pour appartenance à une organisation non reconnue. Et ce, moins d'une semaine après l'incarcération de plusieurs de leurs collègues à Rosso. Les précisions d'Eddie Isango.
Assad Ouloulaïd et Mme Marianne Minchek ont été inculpés lundi soir par un juge de Nouakchott. Les premiers ont été envoyés à la prison civile de Darnaïn, près de la capitale, et Mme Minchek à la prison d'arrêt pour femmes de Sebka, à l'ouest de Nouakchott. Tous les deux sont membres de la direction de l'ONG IRA, Initiative pour la résurgence des mouvements abolitionnistes. Le 14 novembre, 8 militants de cette ONG, dont son président Biram Oulda Oud Abeid, ont été écroués à Rosso, dans le sud du pays. Selon leur avocat, Maître Abderrahman Ouldei, ils sont accusés d'appartenir à une organisation non autorisée, de résistance à la force publique, d'incitation à l'insurrection et d'avoir organisé des rassemblements pour une propagande raciste. Ces arrestations font suite à des manifestations à Rosso et Nouakchott liées à une campagne de l'ONG IRA pour dénoncer l'esclavage et les expropriations des terres dont sont victimes les négros mauritaniens. Officiellement, l'esclavage est aboli en Mauritanie et depuis 2007, les personnes reconnues coupables de l'esclavagisme risquent jusqu'à 10 ans de prison, mais selon l'ONG, la pratique persiste.
La Tunisie organise dimanche sa première élection présidentielle libre de l'après-révolution. Le point avec Jean-Roger Billon.
Le grand favori Beji Caïd Essebsi, âgé de 87 ans, espère réaliser un doublé après la victoire de son parti Nida Tounes aux législatives. 27 candidats sont en liste, dont le président sortant Moncef Marzouki, d'ancien ministre, une figure de la gauche, Ama Amami, le riche homme d'affaires Slim Riahi et Kaltoum Kanou, magistrate et seule femme dans la course. Le parti islamiste Ennahda n'a pas présenté de candidat. Si aucun candidat n'obtient la majorité dès le premier tour, un second tour est prévu fin décembre. Ce sera la première fois que les Tunisiens pourront choisir librement leur chef d'État. Depuis son indépendance en 1956, le pays n'a connu que deux présidents, Habib Bourguiba, renversé en novembre 1987 par son premier ministre Zine El Abidine Ben Ali, qui occupera le palais de Carthage jusqu'à sa fuite en Arabie Saoudite en janvier 2011. C'était à la suite d'une révolte populaire qui avait marqué le début du printemps arabe.
La police kényane a effectué une nouvelle descente dans une mosquée de la ville portuaire de Mombasa dans la nuit de mardi à mercredi. C'est ce qu'affirment des sources policières. La police kényane avait déjà mené tôt lundi des descentes dans deux mosquées de Mombasa, soupçonnant des personnes fréquentant ces lieux de culte de liens avec les islamistes somaliens Shebab. Les autorités kényanes ont fermé deux grandes mosquées de Mombasa et renvoyé devant la justice 13 personnes. Bagassi Koura.
Selon le gouvernement de Mombasa, les mosquées de Majib, Moussa et Sakina dans le centre-ville resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. Elles ont été bouclées par la police. 13 personnes ont été inculpées de possession de matériel explosif. Ce lundi, la police a effectué des descentes musclées dans ces mosquées soupçonnées d'abriter des sympathisants des islamistes somaliens. Plus de 250 personnes ont été arrêtées. Un jeune de 20 ans a été tué pendant l'opération. La police kényane affirme qu'il avait tenté de jeter une grenade sur les forces de l'ordre. Mombasa a été frappé par une série d'attaques depuis que le Kenya a envoyé son armée combattre les Shebab en Somalie. Plusieurs imams ont été tués dans cette ville portière dans l'est du pays. En septembre 2013, les islamistes somaliens ont revendiqué une attaque spectaculaire contre le centre commercial Westgate de Nairobi, tuant au moins 67 personnes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Attaque à la roquette à Rafah en Égypte, près de Gaza. Au moins 10 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lorsque le missile a frappé leur maison. Tel est le bilan des sources sécuritaires et médicales. Pour l'heure, on ne sait pas qui a tiré cette roquette. Il faut dire que le nord de la péninsule du Sinaï, frontalière avec Israël, est le théâtre d'attentats meurtriers quasi quotidiens depuis que l'armée a destitué le président islamiste Mohamed Morsi en juillet 2013.
En Israël, le bilan s'alourdit. On compte désormais 5 Israéliens tués par des Palestiniens armés de hachoirs et d'un pistolet dans une synagogue de Jérusalem au moment de la prière du matin. L'attaque d'hier est la plus meurtrière depuis plusieurs années dans la ville sainte. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a ordonné la démolition des maisons des assaillants.
Et à Hong Kong, les protestations persistent. Des heurts ont opposé des policiers à des manifestants pro-démocratie. Aujourd'hui, un petit groupe de protestataires masqués a tenté de faire irruption dans un bâtiment du gouvernement. Une centaine de policiers ont fait usage de leurs bâtons et de gaz au poivre contre les manifestants. 4 personnes ont été interpellées. Ces heurts sont survenus quelques heures après le démantèlement de barricades par les autorités.
Réunion à Vienne sur le programme nucléaire iranien. Les diplomates de la République islamique et du groupe des 5+1, c'est-à-dire la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Russie et l'Allemagne, doivent se retrouver pour la première fois en séance plénière après des discussions bilatérales mardi. Ces discussions, qui ont pour ambition de trouver un accord historique, ont jusqu'au 24 novembre pour aboutir.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. Au micro, Morgane Guiriec. On enchaîne sur la partie magazine de notre émission. Le Burkina Faso a tourné une autre page de son histoire avec l'investiture hier de l'ex-diplomate Michel Kafando comme président intérimaire, avec la tâche de conduire la transition pendant un an jusqu'aux élections prévues en novembre 2015. Quels défis attendent maintenant le pays des hommes intègres ? Timothée Donangmaï a recueilli l'analyse de Nyaka Lagoké, fondateur du Revival of Pan-Africanism Forum, forum pour la renaissance du panafricanisme en français.
Comme tout processus révolutionnaire, il y aura des tentatives de bloquer ou de réduire le mouvement révolutionnaire qui se passe au Burkina Faso. Mais compte tenu de la maturité des jeunes qu'on appelle la génération Sankara, et puis compte tenu du fait que ceux qui ont organisé la lutte et ces jeunes-là ont une conscience politique assez élevée, je pense qu'ils sont assez vigilants. Je pense qu'ils seront les gardiens de la révolution et donc il se peut que la révolution ne déraille pas. Mais pour parler rapidement de Michel Kafando, j'ai lu sa biographie. Et bon, je m'attendais à quelqu'un d'autre, parce qu'on sait que c'est une révolution qui a emporté Blaise Compaoré. Et de savoir que ceux qui ont fait partie Blaise se réclamaient de Thomas Sankara et voient un président de transition qui a servi tous les régimes au Burkina Faso, bien avant Thomas Sankara et après jusqu'à Blaise Compaoré, mais sauf le gouvernement de Thomas Sankara, ça me laisse un peu un goût d'inachevé, quoi.
En même temps, d'aucuns disent qu'il fallait tourner la page sans pour autant engager une chasse aux sorcières.
Bien sûr, mais il y a quand même des dignitaires de l'ancien régime qui sont en prison. Donc, je crois qu'aujourd'hui, ils ont même arrêté un ancien directeur général. Mais bon, ils ont des comptes à rendre. Moi, je ne suis pas forcément pour qu'il y ait la chasse aux sorcières, mais il faut aussi reconnaître que le régime de Blaise Compaoré a fait beaucoup de mauvaises choses. Tuer Thomas Sankara, c'était l'espoir de l'Afrique qui a été assassiné. Et tôt ou tard, il devrait répondre. Même si on devrait lui pardonner. Mais je pense que tôt ou tard, il devrait répondre à ce crime-là.
La coalition qui a chassé Blaise Compaoré du pouvoir n'avait apparemment comme seul point commun que le rejet de Compaoré. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que Compaoré est parti?
D'abord, il y a le mouvement pour le progrès du peuple là, de Christian Roch Kabore qui va naturellement entrer en compétition parce que Kabore cherchera à être président. Tout comme Zéphirin Diabré, le leader de l'opposition de l'Union pour le progrès et le changement, l'UPC, qui va chercher naturellement à être président. Ça fait déjà deux. Donc ça veut dire que cette coalition va, je dirais, s'effriter et éclater. Et c'était une coalition pour le changement. Maintenant, chacun va aller de son côté. Et les jeunes qui constituent la nouvelle énergie du mouvement révolutionnaire Burkina, dirigé par plusieurs groupes qui se réclament de Thomas Sankara, dont le mouvement Le Balai Citoyen, ils ont dit qu'ils ne s'intéressaient pas au pouvoir, mais qu'ils allaient contrôler ceux qui allait diriger le pays. Et donc, je pense que c'est une première en Afrique subsaharienne de voir des gens avec une telle conscience politique et qui veulent impliquer les jeunes, les sans-emploi, les planteurs et diverses couches de la société dans le processus politique. Et donc, je pense que c'est ce qui manque souvent en Afrique. Quand il y a une élection, les populations africaines ont tendance à laisser leur destin dans les mains des leaders et qui sont des êtres humains et qui sont donc faillibles. Et donc, quand ils arrivent à fauter, donc ça devient naturellement un suicide collectif.
Voilà, c'était Nyaka Lagoké, fondateur du Revival of Pan-Africanism Forum, joint à Washington.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Les perspectives de croissance pour l'Afrique en 2015 s'annoncent favorables, mais l'économie du continent est menacée par divers facteurs, dont la fièvre à virus Ebola. Par ailleurs, les cours des matières premières pourraient être aussi déterminants, ainsi que la qualité de la gouvernance macroéconomique. De Lomé, une correspondance de Kylie Lawson.
L'Afrique est la seconde zone dans le monde avec un taux de croissance élevé derrière l'Asie. Selon les prévisions des économistes, l'Afrique connaîtra une croissance autour de 5,5% en 2015. Werner Keller, représentant résident du Fonds monétaire international FMI au Togo.
Le contexte international devient certes plus difficile, mais l'Afrique a des grands atouts pour avoir une croissance en 2015 qui est à peu près au même niveau de 2014, c'est-à-dire autour de 5,3-5,75% en 2015. Ce que nous proposons, c'est maintenir les bonnes politiques, s'ouvrir au monde, investir dans le social. C'est très important que les fruits de cette croissance puissent vraiment être sentis par la majorité de la population.
Malheureusement, ce n'est pas encore le cas. La croissance économique en Afrique a un caractère virtuel car elle n'agit pas directement sur la pauvreté. Abdoulaye Mardienne, directeur du Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD.
Il y a deux grandes contraintes majeures qui font que la croissance ne descend pas au niveau des populations. La première, c'est les grandes inégalités. Et le deuxième élément, c'est la faible transformation structurelle de nos économies, qui font que beaucoup de la croissance, c'est dans des secteurs très limités, notamment les secteurs des matières premières et des industries extractives. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de faire une transformation structurelle de nos économies pour qu'il y ait beaucoup plus de valeur ajoutée interne dans nos économies et assurer que nos secteurs soient intégrés. Par exemple, ne pas avoir des îlots comme des industries extractives qui produisent des ressources et puis les exportent, mais s'assurer qu'il y a une cohérence entre les industries extractives, l'agriculture, les services.
L'un des défis pour les économies africaines est la transformation structurelle, nous dit Diosousse Mondi, ministre togolais de la planification.
Les défis concernant la qualité de l'investissement, les transformations structurelles pour que la croissance économique puisse donner une amélioration constante et progressive des conditions de vie des populations, pour que les économies africaines puissent s'insérer harmonieusement dans l'économie mondiale. Parce que si la plupart des pays pétroliers ont tiré la croissance en Afrique, il faut que cette croissance-là donne lieu à une transformation structurelle, que nous puissions avoir des investissements de qualité.
Même si les perspectives sont bonnes, des incertitudes demeurent. Au nombre de celles-ci, la fièvre hémorragique à virus Ebola. Professeur Kakonu Bukpo, ministre togolais de la prospective.
La crise Ebola, avec son impact qui n'est pas encore totalement déterminé. Les impacts directs peuvent être faibles, mais nous pensons qu'il peut y avoir des impacts indirects liés notamment à la psychose, donc à quelque part un refus d'éventuels investisseurs de venir. Le tourisme pourrait aussi en souffrir. Ceci étant dit, n'oublions pas les facteurs structurels. La croissance est tirée par les matières premières et les cours des matières premières sont volatiles, ce qui peut rendre la croissance aussi volatile. Deuxième chose, cette croissance est faiblement pourvoyeuse en emploi.
Kay Lawson, nommé pour la Voix de l'Amérique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, plein feu une fois encore sur l'épidémie d'Ebola et le Mali en particulier, dernier pays en date à être touché par la maladie. Vos commentaires sur la page Facebook de La Voix de l'Amérique. Rendez-vous ce jeudi à 19h PU sur VOA Afrique.
Allez, place au sport avec Nicolas Pinault. Bonjour Nicolas.
Bonjour Morgane.
Sixième et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2015.
Il ne reste que 6 places à prendre pour espérer jouer le tournoi en Guinée équatoriale en janvier prochain. De nombreux pays ont décroché leur billet pour Malabo. Dans le groupe A, l'Afrique du Sud, déjà qualifiée, affronte le Nigeria, deuxième. Les Super Eagles et les Diables Rouges du Congo sont deuxième ex aequo avec 7 points chacun. Le Congo-Brazzaville affronte le Soudan, déjà éliminé.
À ce sujet, Nicolas, les supporters des Diables Rouges pensent que leur équipe, qui livre aujourd'hui son dernier match contre le Soudan, a toutes les chances pour se qualifier. Ils avaient déjà cotisé plus de 34 millions de francs CFA pour soutenir les Diables Rouges lors du match contre le Nigeria, où l'équipe congolaise a perdu 0-2 le week-end dernier. De Brazzaville, la correspondance de Nguelen Goussou.
De nombreux sportifs brazzavillois gardent encore l'espoir de voir les Diables Rouges se qualifier pour la phase finale de la CAN 2015. Alphonse Ndongo, chroniqueur sportif au bimensuel Terre Africa, reste optimiste.
pourvu que nous puissions dans un premier temps assumer la responsabilité de gagner à domicile contre le Soudan et évidemment compter pourquoi pas sur la défaite du Nigeria. Mais là où nous avons plus de chance, c'est que si nous gagnons le Soudan, on a de réelles possibilités d'être parmi les meilleures équipes qui se classent en troisième position. Mais vu le nombre de points que nous avons aujourd'hui, puisque nous en avons 7, on sera naturellement à 10 points et donc je pense qu'on sera, comme on dit, le premier des troisièmes équipes.
Le soutien à plus de 34 millions de francs CFA du public ordinaire n'a pas galvanisé l'espoir de tout un peuple. Battu 0-2 à domicile par le Nigeria, les Diables Rouges ont plus que déçu leurs supporters qui avaient fortement contribué à une éventuelle victoire.
Ça fait mal parce que déjà, lorsqu'on soutient une équipe comme les Diables Rouges, on s'attend aux résultats quand même fiables. Bon, vous dépensez après, on est perdant en argent d'abord, on perd en énergie parce qu'il y a une forte mobilisation. Les gens sont venus pour soutenir l'équipe nationale. Bon, au finish, c'est la déception.
Oui, mais aller à Pointe-Noire pour aller suivre le match, ça ne coûte pas quand même rien. Il faut quand même un minimum d'engagement et les Congolais sont furieux du football. Nous sommes un pays footballistique, on peut se le permettre. Dès l'instant qu'on commence à constater des déceptions de cette nature-là, généralement, ça ne peut pas être bien pour nous.
Mais selon l'analyse de Alphonse Ndongo, les Diables Rouges ont encore leur chance de se qualifier.
Il y a la soif absolument de renouer avec la CAN parce qu'il faut le dire, hein, notre dernière participation remonte à la Coupe d'Afrique du Nigeria. Et donc là, franchement, on voudrait quand même voir cette équipe du Congo à nouveau prendre part à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. D'où ce sursaut d'orgueil congolais qui se sont mobilisés pour mettre la main à la poche et mobiliser autant d'argent.
Nguela Ngoussou, Brazzaville, La Voix de l'Amérique.
Dans le groupe B, les Aigles du Mali reçoivent à Bamako, l'Algérie déjà qualifiée, le Malawi en déplacement en Éthiopie. Dans le groupe C, les jeux sont faits, le Burkina Faso et le Gabon sont déjà qualifiés. Les vice-champions d'Afrique reçoivent l'Angola ce soir pour un match sans enjeu, mais non sans passion, nous explique Salif Kabore à Ouagadougou.
Ce soir, à 18h temps universel, l'Angola se retrouvera face à une équipe burkinabé qui chercherait à conforter sa position de leader dans le groupe C. Les Palancas Negras, arrivés le mardi dernier à Ouagadougou, espèrent battre à domicile le Burkina Faso pour se venger de sa défaite par 3-0 à l'aller. Cependant, une absence de taille est à noter au sein des étalons. Il s'agit du capitaine Charles Kabore qui totalise 2 cartons jaunes.
Tout le monde est important. Que moi je sois là, je ne sois pas là. L'équipe va jouer, ils vont faire un bon match. Et je serai là pour soutenir le groupe, chercher la victoire obligatoirement contre l'Angola. On a un bon mental, plus conquérant et jouer notre football et gagner avec la manière à domicile.
Les nouvelles autorités du pays ont décidé d'ouvrir gratuitement le stade du 4 août de Ouagadougou au public. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Dans le groupe D, les éléphants de Côte d'Ivoire sont deuxièmes du groupe et ont leur destin en main. Un point suffira aux Ivoiriens pour se qualifier lors du match face au Cameroun à Abidjan. Le Camerounais Eric Choupo-Moting de Schalke 04 est forfait pour cette rencontre. La RDC de son côté doit battre la Sierra Leone et espérer un faux pas ivoirien. Écoutons Neskens Kebano, attaquant des Léopards de la RDC.
Je pense qu'on a manqué de justesse dans le dernier geste. Je pense qu'on n'a pas suffisamment attaqué comme il fallait. Et maintenant, voilà, c'est pas pour autant que tout est perdu. Donc, on a un match encore mercredi, très important, qu'il va falloir remporter. Et malheureusement, espérer et prier que les résultats des autres équipes soient favorables pour nous.
Neskens Kebano, attaquant des Léopards de la RDC, au micro de Top Congo, notre partenaire à Kinshasa. Dans le groupe E, le Togo se déplace au Ghana et doit espérer dans le même temps que l'Ouganda et la Guinée fassent match nul. Dans le groupe F, le Cap-Vert et la Zambie ont déjà leur billet pour la Guinée équatoriale. Même scénario dans le groupe G, où la Tunisie et le Sénégal sont qualifiés.
Le Bénin n'a plus de sélectionneur.
Oui, Didier Olé-Nicole n'aura pas résisté longtemps à la déculottée subie par les écureuils face au Maroc. 6-1, c'était jeudi dernier à Agadir. La fédération béninoise a annoncé ce mardi le limogeage du technicien français. Arrivé en poste au mois de mars dernier en remplacement de Manuel Amoros, l'ancien entraîneur de Clermont et Nice était en sursis après son échec à qualifier le Bénin pour la phase de poule des éliminatoires de la CAN 2015.
Cyclisme, Tour du Rwanda.
Mardi, la deuxième étape du Tour du Rwanda de 151 km entre Rwamagana et Musanze a été remportée par le Rwandais Valence Ndayisenga qui s'impose en solitaire avec 59 secondes d'avance sur l'Érythréen Mekseb Debesay. Valence Ndayisenga prend du coup le maillot jaune de leader au classement général devant son compatriote et coéquipier Jean Bosco Tsegimana. Demain, la troisième étape entre Musanze et Mwanga.
Et puis en basketball américain, les résultats de la NBA, Los Angeles Lakers, Atlanta 114-109, New York Milwaukee 113-117, Oklahoma Utah 81-98. Allez, on passe à la musique avec Roger Muntou. Salut Roger.
Salut Morgan. Ariana Grande sera en concert au Zénith de Paris le 15 mai 2015. Surprise hein, pour les Français et les francophones de Paname. Elle s'apprête donc à donner son tout premier concert en France. Hein. La jeune pop star, dont le deuxième album My Everything est disponible depuis fin août, hein, grimpera sur la scène du Zénith pour faire plaisir à ses fans. On écoute ce matin Ariana Grande dans Break Free en featuring avec Zedd. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore.
En l'espace de 2 ans, Roger, Ariana Grande est passée du statut de total inconnue à l'une des pop stars les plus en vue de la planète.
Oui, Morgan, après avoir conquis les États-Unis grâce à The Way, hein, en featuring avec Mac Miller, la belle a enchaîné les tubes pop hein, et les collaborations pour faire exploser sa notoriété. Une vraie réussite hein, avec Problem, Break Free et Bang Bang. Elle s'est classée numéro 1 aux États-Unis, au Canada et en Australie, Morgan.
Ariana Grande featuring Zedd, Break Free. Merci Roger.
C'est moi qui vous remercie Morgan. Nous saluons ce matin tous nos amis, hein, nos auditeurs qui sont en train de nous suivre à Bangui.
Roger Muntou que vous retrouvez tous les soirs à 20h temps universel dans le RM Show.
Roger Muntou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque mercredi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, International Music, comédie, country music. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Ainsi s'achève le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Anne Albertson à la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. C'était Morgane Guerrier au micro et je vous souhaite une excellente journée.